Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Sur 67 millions d'habitants, les chasseurs français, pour ceux qui exercent activement la chasse, sont à peu près 1 200 000. Ces chasseurs-là sont en colère. En juin, on leur a supprimé la chasse à la glu, traduisez « enduire des branches de colle pour piéger les oiseaux ». Et il y a quelques semaines, en août, le Conseil d'État, suivant la réglementation européenne, interdit plusieurs pratiques ancestrales et néanmoins contestées, à savoir les filets, qu'on appelle des pentes ou des tenderies, et les cages, qu'on appelle des matoles. Les chasseurs ont donc déferlé. Caen, Charleville-Mézières, Forcalquier, Mont-de-Marsan, Amiens, Redon, dénonçant les talibans du Paristan, les idéologues de la capitale, les végétariens et les véganes n'ont pas à faire la police de l'alimentation, scandait-il ce matin. Écoutez ce chasseur rencontré à Amiens par Maximilien Carlier.
Je pense qu'il y a un monde qui se crée entre le monde de la ville et le monde de la campagne. On est régulièrement attaqué de toutes parts. Il faut juste réaffirmer notre présence et aussi montrer que nous sommes des gens responsables. Maintenant, on manifeste et on verra bien la réponse des politiques dans les années à venir.
Et ils en ont aussi après les politiques, notamment l'actuel ministre de l'écologie. Pompili, casse-toi, t'as rien compris, la chasse c'est toute ma vie, arrêtez d'emmerder les ruraux. La ruralité, tiens, sujet repris d'emblée par Xavier Bertrand qui s'est joint au cortège à Amiens.
La ruralité, on la respecte, les ruraux, on les respecte. Cette manifestation aujourd'hui, il y a des chasseurs, oui c'est vrai. Il y a des pêcheurs, il y a des agriculteurs. Mais c'est tout simplement des ruraux qui ne disent pas aux urbains comment ils doivent vivre, mais qui veulent tout simplement qu'on ne leur dicte pas leur conduite et qu'on leur laisse vivre les traditions, leurs passions. C'est ça la réalité. Ils veulent tout simplement être respectés et continuer à vivre de leurs passions. Et ce message-là, non seulement je le partage, mais en plus je le porte.
Voilà, Xavier Bertrand qui a aussi enjoint Emmanuel Macron d'arrêter son double langage, dit-il. Dire qu'il aime la chasse, c'est laisser le gouvernement faire tout le contraire. Autour de cette table, toujours Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro, Patrick Caram, le vice-président de la région Île-de-France, Ludovic Toro, maire UDI de Coubron, et le député LREM de Paris, Sylvain Maillard. Il y a des chasseurs parmi vous? Vous quatre? Pas de chasseurs?
Si à 15 ans, je tirais le merle avec ma carabine à plomb.
Et alors, ça s'est bien passé?
Ouais, ça a été. Ouais. On s'est dépaté de merde à l'époque. J'étais en Bretagne.
Voilà. Bon,
j'ai arrêté à 16 ans. Donc ça a été 15-16 ans.
Mais c'est pas ça, être chasseur. C'est aussi un mode de vie. Ouais. C'est aussi
Patrick
une
Caram.
Culture. C'est une identité. C'est un ancrage local. C'est un ancrage sur la terre. Chasseur, c'est finalement une
c'est
autre
la ruralité,
philosophie.
C'est ce que dit Xavier Bertrand.
Mais il a parfaitement raison. En fait, les chasseurs remplissent une mission de service public. Il faut qu'on se dise la vérité. Lorsqu'il y a un trop plein de population, des sangliers, vous vous souvenez? Allez, un petit exemple. Et ça avait frappé en Île-de-France. Pendant le confinement, il n'y avait pas de battue, il n'y avait pas de chasse, on n'avait pas dégommé les sangliers en surpoids. Dégommé, on les avait pas, on n'avait pas régulé les naissances. Allez, on n'avait pas régulé la population des sangliers. Ils étaient au cœur des villes, au cœur des villages. Vous voyez ? Et les chasseurs aident à ça. Et ils le font de manière bénévole. C'est un service public. Ils aident aussi bénévolement à entretenir les forêts. Ils aident aussi à renouveler les espèces. Ils ne sont pas fous. Ils ont besoin de faire en sorte que tout ça marche. Eh bien, je veux vous dire, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, à travers les chasseurs, parce que ce n'est pas seulement les chasseurs qui sont dans la ligne de mire d'un certain nombre de pseudo-écologistes ou de l'Union européenne, parce que tout ça vient d'une directive de l'Union européenne. Oui. C'est finalement les traditions des terroirs. Et on a l'impression qu'on cherche à construire un homme européen désincarné, qui ne pense pas, qui ne pense pas différemment et qui est dans une logique où ils se ressemblent tous. On cherche à construire des petits pois. Eh bien non. La France, c'est un pays de terroir. Chaque terroir a son identité. Moi, je pense à la Guadeloupe. Je suis guadeloupéen. Il y a des combats de coqs. Il y a des courses à bœuf. Couffes, nuka marébeuf et nuka couri. Il y a des courses à bœuf. On a une identité, vous voyez. Et chaque territoire porte cette identité. Et il ne faut laisser personne dire à ces territoires-là et à leurs habitants ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent vivre et comment ils doivent se comporter.
Ludovic Toro.
Oui, alors, tout à fait d'accord, Patrick Carra. Moi, je suis maire d'une commune en Seine-Saint-Denis qui est plutôt rurale. Et souvent, les sangliers descendent avec leurs petits régulièrement tous les ans. Et quand un sanglier arrive avec ses petits dans une maison, dans un pavillon, il renverse tout. Donc j'ai appelé en urgence un soir le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas souvent réveillé pour des sangliers qui descendent dans les maisons. Mais ce que j'ai fait sans les chasseurs, sans régulation, ça devient un danger. Nous avions des accidents de voiture en Seine-Saint-Denis, dans ma ville, parce que les sangliers passaient à 4 ou 5. Donc les chasseurs sont indispensables et c'est notre histoire. Maintenant que l'Europe nous dit qu'il ne faut pas chasser les merles en PACA, excusez-moi, je te rejoins, on est pro-européen.
Qui parle à Sylvain Maillard ? Parce qu'on ne vous voit pas, c'est la
radio. Pardon, cher Sylvain Maillard, ce que je veux dire, c'est que l'Europe doit bien sûr grandir, c'est notre but à tous, mais ok, on ne chasse pas le merde en PACA, il y a peut-être autre chose à faire au niveau de l'Europe, et on l'a vu très récemment.
Sylvain Maillard.
Oui, il peut y avoir un mal-être des chasseurs, et d'abord, je pense qu'il ne faut pas tout généraliser. Sur les mesures que nous avons prises, d'abord, c'est la baisse du coût du permis de chasse national. Qu'est-ce que ça a permis ? 290 000 permis de chasse ont été signés de plus que d'habitude. On a 1 200 000 chasseurs. Ouais, ouais. Pourquoi on a des permis de chasse nationaux et pas plus départementaux ? Nous avons souhaité les démultiplier. Exactement pour ce qui a été dit. Les chasseurs régulent, entre autres, le sanglier, puisqu'il y a parfois trop de gibier qui détruit beaucoup de cultures et qui mettent en danger, Ludovic Thorin vient de le dire très bien, des habitations.
Mais là, c'est plus de la régulation de sangliers. Alors, non, ça, de cage,
donc, dire
de filet
donc,
pour les
dire
oiseaux.
Que c'est les Parisiens, moi qui suis député de Paris, qui n'aiment pas les ruraux, qui n'aiment pas les chasseurs, c'est faux. On pense que c'est important et au contraire, on a poussé le fait qu'au contraire, ils puissent chasser partout pour pouvoir s'adapter à là où est le gibier et là où il y a une vraie difficulté. À côté de ça, il y a certaines chasses qui posent des problèmes. Vous l'avez dit, chasse au filet, chasse à la glu, qui déontologiquement peuvent amener à poser des questions.
Déontologiquement, c'est quoi la déontologie ?
J'ai juste terminé.
Non, je n'ai pas compris déontologiquement le mot.
Vous avez parlé des combats de coqs.
Oui.
Des combats de coqs, on dirait que c'est notre identité. Oui. Vous savez quoi, je suis sûr que dans les îles, il y a des gens qui aussi pensent que, honnêtement, le combat de coqs, on pourrait passer à autre chose.
Alors moi, je veux vous dire.
Et donc, il y a des discussions. Il y a des choses sur les corridas, d'ailleurs. Les discussions peuvent exister.
Je vais vous dire ce qu'ils pensent.
Et sur la chasse à la glu, on colle des oiseaux aux branches. Moi, j'entends le. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire qu'il y a des chasses qu'on doit promouvoir pour le chasseur et aussi pour un art de vie, et parce qu'on en a besoin. On a parlé des sangliers, par exemple. Et puis d'autres chasses, où peut-être les pratiques sont d'un autre âge et passons à autre chose.
Voilà,
mais il n'y a pas de... Et je terminerai juste là-dessus. Il n'y a pas du tout de jugement de la vie des ruraux. Moi, je trouve que c'est une vie vraiment qui... Enfin, une belle vie. Chacun doit être différent. Et là, je rejoins ce que dit Patrick Caram. Il a raison. Il n'y a pas besoin de faire un homme européen où tout le monde penserait pareil. Loin de là. Mais en même temps, il y a une évolution de la société. On le voit bien. On le constate tous bien. Je crois qu'il faut l'accompagner. Nous ne sommes pas les ennemis des chasseurs.
Droit de réponse de Patrick Caram.
Moi, je constate que M. Maillard n'est pas sur la même philosophie que le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, 2017, fête son 40e anniversaire. Château de Chambord, terrain de chasse des présidents. Château de Chambord, il reçoit qui ? Des fédérations de chasseurs. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Le pacte de Chambord. C'est-à-dire, je ne vous emmerderai pas et aidez-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, les chasseurs n'ont pas rejoint les Gilets jaunes. Ça a été aussi ça, le débat. C'est-à-dire qu'en réalité, il a tout fait pour ne pas les emmerder. Et la vérité, vous voyez, un président de la République qui est normalement projeté dans le monde, qui s'occupe d'international, qui s'occupe de défense, qui a d'autres soucis d'économie pendant la pandémie, qui fait des arbitrages pour savoir quel type de méthode traditionnelle on peut garder ou pas. Ben, ça remonte à l'Élysée. C'est lui-même qui fait des arbitrages sur des questions qui n'auraient par aucun président été abordées. Ça veut dire qu'en réalité, il est peut-être dans une logique électoraliste dessus, moi je pense, et on va lui donner crédit de ça quand même. C'est peut-être que cet homme désincarné par la finance, il a peut-être envie de retrouver un peu le sens du terroir, peut-être l'odeur de la forêt que ces hommes et ces femmes, quand ils marchent, et ces enfants, parce qu'on emmène aussi des enfants parfois, pour voir et se familiariser avec tout ça, et bien quand ils arpentent la forêt, et bien c'est cette camaraderie qu'il avait envie de retrouver. Peut-être, gageons, que c'est ça sa seule qualité et les seules raisons pour lesquelles il a fait ce pacte de Chambord
Alexandre
en 2017.
Non mais je ferai, pour une fois, je vais faire un peu de en même temps, c'est-à-dire que la chasse à la glu, ça, je connais pas forcément cette tradition, mais de loin comme ça, peut-être effectivement que on pourrait défendre d'autres types de chasse, mais je crois que les manifestations d'aujourd'hui dépassent effectivement, et là c'est là où je rejoins tout ce qui a été dit, dépassent très largement la question de la chasse à la glu. On est dans un pays de plus en plus clivé, avec d'un côté les grandes métropoles et d'un autre côté cette France périphérique et rurale qui se sent oubliée, méprisée par les élites parisiennes.
Aussi parce qu'on dit au aussi parce qu'on dit d'elle qu'elle est périphérique.
Oui, c'est Christophe Guilluy qui a pas parlé de France périphérique, mais c'était pas du tout pour dire qu'elle était périphérique.
Mais vous comprenez qu'il peut y avoir un...
qu'elle était périphérique aux yeux justement de certaines élites. On lui enjoint d'avoir des moteurs écolos, de renoncer au diesel sans tenir compte du fait qu'elle a besoin de la voiture. Donc elle se sent méprisée. On veut faire les citadins qui ont redécouvert la campagne avec la crise du Covid, veulent faire maintenant la ville à la campagne. Ils sont pro-éoliennes alors que voilà, ils vivent pas sur ces territoires-là. Donc je pense qu'il y a tout ça derrière ces manifestations-là. Et il y a, d'ailleurs, c'est pas seulement les chasseurs. Xavier Bertrand, on l'a écouté dans l'extrait, parlait également des pêcheurs, des agriculteurs. Ouais. C'est pas hasard si à partir de cette question de la chasse à la glu, on a un mouvement beaucoup plus large qui rassemble une partie de la France.
Alexandre Devecchio, Patrick Kéram, Ludovic Thoreau et Sylvain Maillard sont à table pour parler chasse. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Les chasseurs ont déferlé dans plusieurs villes de France, à Caen, à Charleville-Mézières, à Forcalquier, à Mont-de-Marsan, à Amiens ou à Redon. On a vu Xavier Bertrand se joindre aux chasseurs d'Amiens pour défendre la ruralité qu'il représente également. On en parle avec Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro, avec le vice-président de la région Île-de-France et vice-président de l'île, Patrick Kéram, avec le maire UDI de Coubron, Ludovic Thoreau, et le député de Paris, LREM, Sylvain Maillard. On en était où ? Rappelez-moi, Ludovic Thoreau.
Oui, enfin, deux choses, deux remarques. La première, c'est aussi, il y a la politique là-dedans, on n'est pas très loin, d'accord ?
Donc, on parlait de l'électoralisme d'Emmanuel Macron, ce que
oui,
disait
puis la venue de Xavier Bertrand. Oui, les chiffres sont là. 30% des chasseurs, il y en a 1 million, ont voté Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles, 25% pour Fillon, 20% pour Macron, il y avait à peu près, et 15% pour Mélenchon. Ça, c'est le côté politique, d'accord ? Maintenant, je pense qu'il y a aussi un inconscient par rapport à la souffrance des animaux. Et je pense qu'il faudrait plus aller sur les abattoirs, qui régulièrement, on voit des vidéos qui passent, d'accord ? Où les animaux sont malmenés, d'accord ? Ils sont saignés vifs. Et on fait un mélange des deux. Maintenant, la chasse, c'est notre histoire. Comme on dit, l'histoire française, c'est la chasse.
Vous préférez la chasse aux abattoirs ?
Non, oui, ça va voir. Vous rendez compte des abattoirs, comment ça se passe ? Vous avez vu les images ? On le sait très bien.
Tous ne fonctionnent pas comme ça. Là, vous parlez des images de L214.
Oui, mais il y en a régulièrement des abattoirs qui sont condamnés à des fermetures parce que quand ils tuent les animaux, c'est catastrophique. Maintenant, ouais, les animaux, au cas par cas, est-ce que, comme tu disais, vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'Europe est là pour voir si on doit chasser les merles ?
On disait ça à la pause. Oui,
oui, mais c'est important.
C'est ça, mais c'est important. Ça me paraît fou que ce soit une directive européenne. On disait qu'il y a des enjeux quand même autres que ça. Ça, on parlait de la Chine tout à l'heure. Je pense que l'Europe pourrait essayer de s'occuper des grandes questions stratégiques plutôt que de la chasse en France.
Alors, c'est ça qu'on reproche à l'Europe. Moi, je suis très pro-européen. J'ai été président de l'Union des jeunes européens pendant de très nombreuses années quand j'étais jeune. Exactement. Je suis pro-européen. Mon sujet, c'est que l'Europe ne s'occupe de tout, sauf de ce qu'elle devrait faire. On n'a pas créé l'Europe pour venir créer une directive européenne sur les oiseaux.
Pourquoi
avec,
pas
avec un contingentement sur la façon dont vous allez chasser. On n'a pas créé l'Union européenne pour s'occuper de la taille.
On a bien compris, Patrick Kéram, qu'il y avait une question de cruauté
non.
là.
Quelle cruauté ?
Je pose la question. C'est pas moi
des animaux vivants et conscients. Où est il n'y a pas de cruauté là-dessus ? Bien. Donc l'Union européenne devrait, à mon sens, ne pas se mêler des traditions locales. Premièrement. Deuxièmement, c'est le principe de subsidiarité. Se mêler peut-être de grands sujets, c'est-à-dire faire bloc, faire puissance. On a parlé tout à l'heure de l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'on a fait en Afghanistan ? Où est l'Europe en Afghanistan ? Où est l'Europe au Mali ? Où est l'Europe dans le débat entre la France, l'Australie et les États-Unis ? Absente, absente, absente. C'est ça que j'attends de l'Union européenne. J'attends de l'Union européenne qu'elle fasse puissance et qu'elle ne s'occupe pas de se discréditer avec des actes qui finissent par hérisser tout le monde.
Oui,
et qui conditionnent les jurisprudences françaises.
Je suis heureux d'entendre Patrick Kéram d'abord rappeler son passé européen et son amour de l'Europe. En même temps, c'est un amour qui se construit, c'est pas un amour qui se constate, c'est un amour qui se construit. C'est difficile, on est à une vingtaine de partenaires avec des histoires différentes, avec des langues différentes, avec des cultures différentes. Et il faut trouver une unité parce qu'on a bien compris que notre destin commun fait que si nous ne nous unissons pas sur l'ensemble des sujets, on l'a vu sur la santé par exemple récemment, c'est une prérogative que n'avait pas l'Europe, et on s'aperçoit qu'on en a cruellement besoin. Est-ce qu'on doit avancer sur les sujets dont a parlé Patrick Kéram ? Évidemment. Est-ce que ça va se faire en incantation ou en expliquant que tout se fera par magie ou bien non. Est-ce que l'Europe doit rentrer dans les détails de notre vie courante? En réalité, c'est vrai qu'elle rentre beaucoup dans les détails, mais beaucoup de choses finalement font en sorte d'unifier d'unifier les normes, les organisations pour qu'il y ait une concurrence et une régulation de la vie économique normal, qu'on ne soit pas à avoir d'un côté qu'on conduise les voitures à gauche et l'autre à droite, par exemple, hein, pour schématiser. C'est aussi ça que fait l'Europe. Est-ce qu'elle doit discuter sur l'Europe ? Est-ce qu'on ne devient pas un peu populiste en expliquant qu'elle devrait s'occuper plutôt de l'Australie et des premiers sujets dont on
j'assume
parlait ?
J'assume le terme populiste.
Et de ne pas s'occuper de la glu. Je pense que l'Europe, vous savez quoi, devrait s'occuper des deux.
Je peux poser une question à Sylvain Maillard. Vous ne tombez pas de votre chaise lorsque il y a ce genre de réglementation européenne sur les filets et les cages interdites pour la chasse aux oiseaux.
Moi, je peux être pour ou contre une réglementation française. Je peux être pour ou contre une réglementation européenne. Mais moi, ce que je veux, c'est construire l'Europe. Je pense qu'on n'a pas.
Est-ce que ça vous étonne qu'un truc aussi particulier viennent de l'Europe?
Non, ça ne m'étonne pas, parce que c'est la réalité. Il y a énormément de choses, beaucoup de lois françaises sont une transcription de directives européennes. Moi, je vote, je suis député français. Une partie des lois que nous votons, de façon importante, sont des transcriptions européennes. Parce qu'on construit une loi commune sur un État. C'est comme ça que ça se passe.
C'est comme ça.
Après, est-ce qu'on est d'accord ou pas sur les modalités? Là, oui, il peut y avoir discussion politique. Est-ce que sur le fait que nous n'aimons pas les chasseurs parce que on pense que peut-être sur la glu, ce qui est un point très particulier,
c'est ce que je vous dis, c'est
très particulier. Je crois que ce n'est pas vrai. Je pense que les chasseurs sont indispensables en France. Je crois que on peut pas opposer les uns qui auraient raison et les autres qui auraient tort. C'est-à-dire ceux qui forcément ont raison, c'est ceux qui font depuis 1000 ans comme ça, et ceux qui proposent d'autres façons aurait tort. Oui. Je crois juste qu'il faut trouver un équilibre. Voilà. Est-ce que c'est le bon équilibre? Moi, je suis pas chasseur. Bon, c'est juste compliqué de vous dire. Mais il me semble que, nous n'avons pas maltraité les chasseurs.
Un mot sur l'Europe.
Alexandre
Devecchio. Au-delà du côté dérisoire de s'attaquer à la chasse à la glu, il se pose quand même un problème plus fondamental que ça. C'est quelle légitimité démocratique, quel mandat a reçu l'Europe pour s'occuper de ça? C'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait un débat profond dans les pays européens sur la chasse à la glu. Donc, à un moment donné, quelle est cette démocratie européenne qui produit des normes, qui change la vie des gens parce qu'il y a des technocrates élus par personne qui l'ont décidé? Moi, ça me pose un vrai problème démocratique.
C'est le vrai sujet. L'Europe, c'est des technocrates qui parlent aux technocrates. Et ça m'interroge aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que c'est une sorte d'institution folle en roue libre. C'est très exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Les Anglais ne sont pas partis par hasard. Ils n'ont jamais été pro-européens. Ce n'est pas le sujet. Mais ils sont partis parce qu'à un moment donné, ça devenait insoutenable.
Mais il y a des technocrates, il y a des députés européens.
Aujourd'hui, regardez la position aujourd'hui de la Pologne et de la Hongrie. Et ils veulent rester dans l'Europe, mais ils ne veulent pas d'un certain nombre de réglementations européennes. Aujourd'hui, les parlementaires français n'ont pas le choix d'un certain nombre de textes. Il faut qu'ils transcrivent dans le droit français les règles européennes. Nos conseils d'État, conseils constitutionnels, cours de cassation, sur un certain nombre de sujets, ne doivent faire qu'une chose, c'est appliquer la réglementation de la Cour européenne de droits de l'homme ou de la réglementation de la Cour de justice des communautés européennes. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un système totalement fou où il n'y a pas de légitimité démocratique d'un côté parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Deuxièmement, vous avez des fonctionnaires. Vous avez des fonctionnaires qui ne passent pas. Vous avez des fonctionnaires et vous envoyez au Parlement européen.
Bon, chef de gouvernement.
Il faudrait qu'on parle aussi un jour, un moment ou un autre, de qui vont et qui vont dans ce Parlement-là et quelle hauteur de vue on peut avoir. Mais nous avons aujourd'hui une véritable question à se poser. L'Europe n'a pas été construite pour ça, pour s'ingérer dans nos vies quotidiennes. Parce que ça va finir par lasser tout le monde. Et pourquoi on ne fait plus de référendum auprès des peuples pour dire est-ce que vous voulez ceci et cela? C'est qu'on a peur de la réponse. Mais c'est à force de jouer à ça, se mêler de nos vies quotidiennes, qu'on finit par dresser les peuples contre l'Europe. Or, nous avons besoin
c'est
d'Europe.
C'est aussi Patrick Arnaud, parce qu'on a
avons
passé
besoin
les hommes
d'Europe,
et les femmes politiques
mais nous
ont
avons
passé
besoin
leur
d'une
temps
Europe.
À dire que c'est
mais
à
monsieur
cause,
Maillard, deux secondes.
À cause de l'Europe, dès qu'il y avait un problème.
Sautez sur votre chaise en criant Europe, 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 tout va bien. Ça, mais ça nous avons été dignité européenne. Mais je le compare à De Gaulle. Et il devrait être content, lui. Eh bien, nous avons besoin d'Europe parce que nous avons besoin aujourd'hui, face à des grandes
puissances. On vous a entendu, Patrick Carab. Laissez répondre Sylvain Maillard et ensuite Ludovic Toro.
Moi, sur l'Europe, moi, j'entends ce que vous dites. À un moment, c'est une construction. On ne peut pas à chaque fois dire, quand il y a un problème, dire « Ah ben, c'est la faute des Européens, on n'est pas d'accord. L'Europe, finalement, c'est quelque chose d'abscon. » Non, il y a des règles démocratiques dans l'Europe. Est-ce qu'on peut donner... Vous savez, moi je suis, à titre personnel, toujours une construction plutôt voulu une Europe fédérale. Donc, vous voyez, je suis beaucoup plus loin. Est-ce qu'on est au milieu du guet ? Moi, je pense profondément qu'il faut aller pour plus d'intégration. Mais plus d'intégration, c'est aussi laisser de la souveraineté. La souveraineté, parce qu'on pense qu'on retrouvera la souveraineté si on est plus grand et plus puissant. Et donc, est-ce qu'on est au milieu du chemin ? Probablement. Est-ce que le président de la République, par ses initiatives, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ses initiatives essayent de construire une souveraineté plus importante et une intégration plus importante. Je le crois, c'est pour ça que j'appuie ce qu'il fait dans divers domaines et qu'il est plutôt moteur pour construire entre autres, une défense, on parlait tout à l'heure, défense européenne, de construire une Europe qui soit plus intégrée. Mais ce qu'on a fait, et je crois qu'il y a une erreur profonde depuis tant d'années, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la faute de l'Europe. À chaque fois que c'est bien, c'est moi qui l'ai fait. C'est comme ça que ça se passe.
Monsieur Maillard,
vous avez très bien. Et là, c'est très populiste.
Acceptez juste une question.
Patrick Carme.
La réglementation européenne, et vous le savez, sur le droit de la concurrence, nous empêche de construire des champions. D'autres pays sont en train de rassembler leurs champions et de les lâcher à l'assaut des marchés étrangers. Et nous, notre réglementation, nous met nos champions dans un tel carcan que des rapprochements industriels, on a eu un exemple récent, sont impossibles. Mmh. Premier exemple. Donc, est-ce que vous cautionnez ça ? Deuxième
non,
exemple.
Alors, je réponds tout de suite. C'est très simple. La doctrine est en train de changer et réécrite, et vous avez tout à fait raison, c'est un scandale ce qui s'est passé, le non-rapprochement de Siemens et Alstom, ce qui empêchait de construire le numéro 1 mondial, ou en tout cas numéro 2 mondial face aux Chinois, vous avez tout à fait raison, et c'est ça, c'était une alerte pour l'Europe, en disant arrêtez de croire que nous sommes une île, on a des concurrences étrangères,
d'où
et on change la
doctrine.
Mais vous savez quoi, Patrick Caram, c'est pas en hurlant contre l'Europe, c'est justement en faisant en sorte que ça change, alors, et en ayant un poids, que la France est un poids au sein de l'Europe. Vous étiez européen, je sais qu'on va se retrouver là-dessus.
On parlait de coq, moi j'espère que ce ne sera pas quand les coqs auront des dents que l'on assistera à ces modifications. Parce que vous avez cité un exemple, c'est des centaines d'exemples que vivent au quotidien toutes les entreprises européennes. Deuxième élément, sur les normes, nous avons réglementé, rigidifié un tel système normatif sur les sanitaires, ceci et cela, que beaucoup d'entreprises s'astreignent à respecter et pour produire en Europe, ces mêmes réglementations ne s'appliquent pas à l'étranger et on achète à tour de bras des produits qui ne présentent pas le même respect de ces normes-là. Il n'y a aucun contrôle et on fausse la concurrence en permettant
réponse
justement...
de Sylvain Maillard. Et
c'est
ensuite,
difficile
d'avoir une
réponse générale. Il n'y a pas un produit, on ne veut pas laisser dire qu'il y a un produit qui rentre en Europe sans avoir les normes européennes. Est-ce qu'on devrait aller plus loin ? Oui, quand on dit qu'on veut, par exemple, une taxe carbone, c'est ça l'idée aussi. C'est de faire en sorte d'obliger les autres pays à s'aligner sur le standard européen. Mais vous savez, c'est la puissance européenne qui va imposer ses normes. Si vous n'imposez pas vos normes, vous appliquez le règlement de l'adversaire ou du concurrent, et c'est lui qui gagne à la fin. On a parlé encore, je reviens sur le premier sujet qui est sur les États-Unis. C'est la puissance qui fait qu'à un moment, vous imposez vos normes. Ne croyez pas que c'est l'Europe et notre adversaire. C'est en se regroupant et en imposant des normes au reste du monde qu'on sera
Le problème des normes, c'est qu'aujourd'hui, ils sont imposés d'abord aux Européens. Donc, c'est un système normatif construit contre les Européens et contre les intérêts des Européens.
Je ne crois pas.
Permet l'infiltration de notre économie par d'autres puissances qui ne respectent rien. Voilà la réalité.
Je ne crois pas.
On reparlera de l'Europe et votre idée de l'Europe fédérale est intéressante parce que est-ce que c'est une Europe fédérale à 27 que vous envisagez ?
Non mais moi je parle à titre personnel.
Vous avez eu la gentillesse plusieurs fois de rappeler
ma filiation centriste. J'ai eu la chance de débattre et d'être aux côtés plusieurs fois du président Valéry Giscard d'Estaing là-dessus. Et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut plus d'intégration. Quand je me bats au quotidien pour par exemple que les étudiants fassent plus d'Erasmus, que ça devienne quelque chose de vraiment standard, de trouver les financements pour faire de l'Erasmus, de l'apprentissage, c'est des choses très concrètes. Je pense qu'on doit doit, que les Français, que les Européens doivent plus aller dans, vers les autres pays, parce que je crois que c'est notre avenir profondément, et c'est notre espoir, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une puissance économique et de rayonner à l'étranger.
Même si, si on ça va être difficile ça, dans l'immédiat, si de faire 27, il y a beaucoup trop de divergences
si,
entre les pays.
Si on se rabougrit uniquement chacun sur notre pays, on l'a vu très bien, on va se faire croquer tout cru. Notre espoir, c'est l'Europe. On a la chance d'être dans un bloc, la première puissance économique mondiale. Après, il faut l'accepter que c'est la première puissance économique mondiale. Et puis, il faut faire des compromis. Et c'est vrai que parfois, les compromis, c'est difficile.
Mais première puissance économique mondiale sans traduction politique, sans traduction géopolitique, sans traduction stratégique, sans traduction d'autorité de puissance à l'étranger. Vous appelez ça une puissance ?
Bah oui, économiquement, c'est la non, première puissance d'accord. économique.
Ok, mais au-delà
c'est
de
des statistiques.
Au-delà de ça.
C'est une addition
non, mais
de PIB.
Au-delà de ça.
Ludovic Toro.
Vous voyez bien que
Ludovic
votre raisonnement ne tient
on
pas.
On a encore non. beaucoup de travail à faire ensemble, Patrick Arne. Vous allez voir,
bon,
on va y arriver.
Oui, oui, mais je crois que tous autour de cette table, parce qu'aujourd'hui, on est des pro-européens.
Moi non.
Oui,
enfin, moi je suis pro-européen, mais
toi,
pas...
t'es pas politique. On parle de politique.
Je suis pro-européen,
alors,
mais
dès
pas
qu'il
pro-européen.
Est pas pro-européen, vous
je,
le tutoyez.
Je suis pour.
Ah, pardon, excusez-moi.
Je suis pour l'Europe. Je suis pour l'Europe des nations, mais pas pour l'Europe.
Je finis.
C'était Alexandre Devecchio.
Je termine. je termine. On est tous, enfin, 3 sur 4 sont ici vraiment pro-européens. Mais est-ce que l'Europe qu'on a rêvée est celle qui est en place aujourd'hui? On est tous d'accord pour dire non. Et puis aujourd'hui, il y a une urgence. On a la Chine. On a la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, va voir que cette Europe, elle bouge vraiment. Parce que, regardons un peu sur l'économie. Je redis encore, personne n'a bougé pour nous dire qu'on vient de perdre 56 milliards. L'économie, c'est aussi l'Europe. Et il n'y en a pas un qui bouge. Sur l'armée, cette armée qu'on dit qu'on pourrait faire ensemble, souvent on s'affronte, mais quand on part sur l'autre terrain, l'Afghanistan, on est tout seul. D'accord ? Donc tout ça, c'est des rêves qu'on avait mis en place. Je vous rappelle, c'était pour la paix initialement, pour l'économie. Et ces deux-là sont un tout petit peu, et on le voit là, un peu en échec. Sur la santé, je ne vais pas en parler, là aussi. Alors après, quand on nous parle de la grive ou du merle en PACA, c'est vrai que ça peut nous interroger sur ces trois grandes choses qui devraient tous nous unir et qui nous unissent tous dans notre volonté. On ne répond pas comme on devrait. Et je suis un pro-européen. Je veux que cette Europe soit efficace. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans l'efficacité de cette Europe ? Je ne crois pas.
Merci pour ce plaidoyer. Juste une question intéressante. Vous parliez tout à l'heure, et vous l'avez redit là à l'instant, ça vous a étonné, Sylvain Maillard, ce que dit Ludovic Toro, que Ursula von der Leyen ou aucun pays européen n'ait réagi à cette crise des sous-marins français? Ça vous étonne?
Je pense qu'il faudra obligatoirement une réponse de l'Europe.
Oui, donc
parce
ça
que
vous
si, l'Europe, si l'Europe... Après, je n'ai pas toutes les dépêches, je vous avoue, mais je vous fais confiance.
Je n'ai rien pour l'instant.
Je pense que l'Europe doit réagir, parce que si l'Europe ne comprend pas qu'à travers la France, ce sont ses propres intérêts qui sont menacés, c'est qu'il y a un problème.
C'est grave.
Mais je suis persuadé
Alexandre
qu'il y aura une réponse forte européenne.
En tout cas, c'est pas Alexandre Devecchio.
Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'étais anti-européen. Je suis anti-Union européenne, mais je suis pour l'Europe des nations.
Faites différemment.
Alors, il pourrait y avoir une fédération européenne, une Europe fédérale. C'est pas mon rêve. Et surtout, je pense que c'est pas faisable. Pour qu'il y ait un fédéralisme européen, il faut que tout d'un coup, tous les peuples européens décident d'appartenir à la même nation qui serait une nation Europe. C'est un rêve noble, hein. Je respecte, mais ce n'est pas faisable, et vous le savez très bien, et c'est pour ça que vous ne le proposez pas.
Actuellement, c'est techniquement, on est d'accord.
Moi, je ne suis pas partisan d'une Europe,
plusieurs fois,
d'une Europe confédérale, c'est-à-dire une confédération de pays qui, de manière souple, peuvent se mettre d'accord sur certains sujets pour être plus forts. Oui, enfin pas des cantons, mais des États-nations qui coopèrent dans certains secteurs. C'est ce qui a permis de faire Airbus, par exemple. Là, on a quelque chose qui, à mon avis, ne peut pas fonctionner et pose encore un problème de légitimité démocratique. C'est une Europe supranationale. C'est-à-dire que c'est une Europe antipolitique, d'une certaine manière. On n'a pas de réelle politique aux manettes. On a mis ce qu'on appelle des experts, des technocrates, des commissaires européens qui ne sont pas responsables devant le peuple et qui en plus sont déconnectés des réalités. Donc je pense qu'il faut sortir de cette logique institutionnelle-là pour revenir à une Europe gaulliste qui est une Europe fondée sur des nations fortes qui coopèrent entre elles.
Et bien voilà, les chasseurs... Oui,
pardon, juste deux secondes. Faut qu'on arrête de dire déconnecté de la réalité dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Il est toujours déconnecté.
En tout cas, déconnecté les faits parce qu'on
a raison
on peut ne pas être d'accord, mais on peut
Monsieur
pas expliquer tout le temps.
En tout
Maillard, ils n'ont pas de légitimité démocratique.
On peut être là-dessus, mais on ne peut pas dire toujours déconnecté dès qu'on n'est pas d'accord.
Vous êtes prêt à partager l'utilisation de l'arme nucléaire française, le siège permanent que la France a au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Non, mais on ne va pas repartir sur un autre débat.
Surtout que les chasseurs nous ont conduits jusqu'en Europe.
Je parle de dire que parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il est déconnecté.
Non, mais être un élu, parce qu'il y a la logique des experts qui seraient impartiaux et qui seraient meilleurs finalement que les élus. Hein. C'était l'idée de Jean Monnet. Être un élu, ça aide quand même à être connecté à la base, au peuple, etc.
Et avoir des coups de pied au cul du peuple quand ça ne marche pas. Exactement. Quand ils viennent vous chercher vous, dans votre maison.
C'est ça que je voulais dire.
Et pourtant, entre élus, ils se disent, les autres se disent toujours l'autre est déconnecté. Non, je pense que c'est un abus de langage. Il faut arrêter d'utiliser ça. On a le droit d'être dans l'opposition des idées politiques. Tant mieux,
on
adore la politique. Il ne faut pas dénigrer les autres.
On est très connectés, puisque c'est Europe 1. Et on est connectés à Europe 1. Sylvain Maillard, Ludovic Toro, Patrick Car Alexandre Devecchio revient dans un instant. Que s'est-il passé avec des résultats de tests PCR à l'AP-HP ? 1 400 000 personnes ayant fait un test à la mi-2020 ont le risque de voir leurs données personnelles piratées. On en parle dans un instant.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des débats d'Europe Soir en mode punchline avec Sylvain Maillard, député LREM de Paris, avec le maire UDI de Coubron, Ludovic Taureau, avec le vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram, et mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio. On parle de ce bug de l'AP-HP et ce message. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. C'est ce qu'écrivait hier l'AP-HP dans un mail à ses patients, car mercredi, cette même AP-HP a porté plainte pour le vol des données personnelles d'environ 1 400 000 personnes, des patients qui tous ont fait un test de dépistage du Covid-19 à la mi-2020 en Île-de-France. Et depuis, eh bien, les hôpitaux de Paris recommandent à cette patientèle de bien faire attention au phishing, aux SMS suspects. Que fait la région Île-de-France, Patrick Caram ?
Fait la police ? Très honnêtement, on ne peut absolument rien faire. C'est une défaillance de la PHP, de l'État. Ils savaient qu'il y avait une faille informatique.
Ils avaient déjà identifié cette
faille-là sur un système qui permettait le transfert aux ARS des tests, etc. Ils n'ont rien mis en place pour y combler. Attendez, mais moi, je l'ai reçu, moi. J'ai reçu ça ce matin. Paris, nous sommes le 17, c'est ça ? Paris, le 17 septembre 2021. Madame, monsieur, 18. Vous avez...
C'était hier.
J'ai reçu ça dans la nuit. Vous avez effectué un test de dépistage Covid, on le croit. Et alors, il continue en me disant, alors c'est long, et il me dit, cette violation concerne vos données d'identité, nom, prénom, date de naissance, sexe, votre numéro de sécurité sociale, vos données de contact, adresse postale, téléphone, adresse électronique, etc. Moi, je veux dire une chose. C'est effrayant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut prendre mon identité, peut y avoir un Patrick Caram, créer une carte d'identité, aller demander un emprunt, et après on retombe sur moi. Parce qu'il y a aujourd'hui cette possibilité, parce que vous ne pouvez rien changer. Je pourrais changer mon adresse postale, je pourrais changer un certain nombre de choses. Je ne peux pas changer mon numéro de sécurité sociale, je ne peux pas changer ma date de naissance. Il y a des facteurs que je ne pourrais jamais faire évoluer. Donc c'est extrêmement grave. Et ce mot-là qui consiste à dire « je vous en prie de bien vouloir nous en excuser », je trouve que c'est extrêmement faible. Aujourd'hui, moi, j'ai un problème. Il doit y avoir des sanctions. Ceux qui ont laissé faire cette défaillance électronique, parce qu'il y avait manifestement une connaissance de cette défaillance-là, on doit leur demander des comptes. Et j'attends qu'aujourd'hui, l'État leur demande des comptes et les traduise en justice. Moi, je n'accepte pas que mes données personnelles soient sur la place publique. C'est absolument insupportable.
Que dit le législateur dans tout ça, monsieur le député Sylvain Maillard ?
D'abord, c'est un vol de données. Comme malheureusement ça arrive de plus en plus, on voit que c'est une nouvelle forme de banditisme.
Ça arrive de plus en plus et on constate que de plus en plus on ne sait plus comment faire.
C'est évidemment avec des technologies extrêmement compliquées et ça c'est une... Autant le numérique nous donne beaucoup de choses et qui améliore notre vie au quotidien. Mais là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de vol. D'ailleurs, je note que dans plusieurs hôpitaux, depuis quelques mois, il y a eu des soucis, des attaques, ce qu'on appelle des rançons, demandes de rançons, c'est-à-dire on bloque un système et on demande de l'argent pour pouvoir remettre en place le système.
C'est une forme de hacking, oui.
C'est tout simplement du vol fait par des voleurs. Donc, évidemment, il doit y avoir une enquête. Il y aura une enquête. Évidemment, c'est grave. Oui, c'est très grave. Est-ce que ça n'existera plus jamais à l'avenir ? La vérité, c'est qu'on se protège tous, on met tous de plus en plus, on encrypte les données de plus en plus, on fait attention à tous les systèmes, et ça hélas, existera toujours. Il faut qu'on travaille en permanence pour trouver des solutions. Je veux juste rassurer Patrick Karam, on ne peut pas faire un emprunt avec votre numéro de sécurité sociale.
Non, soit clair. Mais vous avez raison, on peut falsifier, créer une identité.
Et j'en profite pour dire aux Français qui nous écoutent, attention, beaucoup d'entre nous donnent trop de données sur les différents sites internet, trop de données, où parfois on peut s'offusquer, mais sur certains sites, petits sites, ou finalement assez peu connus, on donne beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il y a du vol. Oui, c'est grave.
Méfiance.
Et oui, il faut qu'il y ait une poursuite judiciaire.
Je suis quelqu'un de concerné. Je voudrais, puisque je suis sur ce plateau, peut-être le seul à avoir reçu ce message-là, moi je vous pose une question. Dans la presse, parce que j'ai été chercher en voyant ça hier, j'ai vu que la PHP avait connaissance de cette faille informatique qui permettait de pouvoir récupérer ces données-là. Et pourtant, n'a rien mis en place pour réguler ça. Moi, la question que je pose, c'est la question de la responsabilité. Il ne suffit pas de dire oui, ça arrive.
Donc là, on a un vice-président de région.
Là, il y a un sujet de responsabilité.
Qui demande des comptes à un député.
Je demande des comptes à l'État.
Il y aura bien sûr des poursuites judiciaires. Il y aura une réponse.
Contre ceux qui ont laissé faire. Donc, je pense qu'il faut demander
une enquête.
Alors, là, il y a 1,4 million de personnes, donc on connaît en gros leur numéro de téléphone, leur mail, bon, leur positivité au nom du Covid, c'est pas très grave, mais imaginons que ça aille plus loin en termes de santé publique. C'est-à-dire que là, c'est juste un test Covid positif ou négatif. Mais on peut alors, dans ces cas-là, rentrer dans la santé des gens, avec tout ce que ça pourrait imposer.
Avec le secret médical, d'accord.
Donc, en fait, l'informatique va très vite, mais les barrages et les pare-feux ne vont pas assez vite. Ils vont beaucoup plus rapidement que nous. Maintenant, il y a des gens qui veulent des fichiers. Vous savez, la vente de fichiers, c'est quelque chose de très important que tout le monde veut. Et là, c'est des ventes de fichiers où à la fois, un, on peut donner des informations, ça permet à certaines entreprises de nous écrire, mais ça permet aussi de faire, comme disait Patrick Karam, des opérations frauduleuses. Et là, voilà, maintenant, on va peut-être trouver à la PHP, mais ça va se passer partout. Parce que les attaques, elles viennent pas seulement de France, elles viennent partout dans le monde. La cyber, elle est partout. Donc cette cyberprotection, là encore, ça va être un enjeu européen. Parce que ça va faire la même chose en Italie, en Allemagne. Là, il faut que l'Europe travaille ensemble là-dessus. Ça n'arrive qu'en France, mais excusez-moi, ça va toucher tous les pays européens. Là, c'est pas très grave, je dirais. À la limite, pas très grave, je ne connais pas encore les conséquences. Mais si on touche vraiment à la santé des gens, avec leur intimité... Parce que si tu vas partout, si tu rentres dans l'HP, tu peux rentrer partout. L'HP, on va voir s'ils ont laissé une porte ouverte. Mais à mon avis, il y a plein de portes ouvertes dans d'autres données et dans d'autres listes de données.
Affaire à suivre, comme on dit. Merci à vous quatre. Merci à Sylvain Maillard. Merci à Ludovic Taureau. Merci à Patrick Karam et à mon confrère Alexandre Devecchio.